nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Bernard Lamarche-Vadel écrivait à contre-courant. Critique d'art, romancier, poète, Bernard Lamarche-Vadel était à la fois un penseur et un savant. On croisait parfois dans les couloirs de France Culture cet homme beau, sauvage et élégant qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup la radio. S'il s'est donné la mort en mai 2000 à l'âge de 51 ans, il laisse une œuvre impressionnante à découvrir absolument, car c'est un écrivain magnifique. Écoutez ce fragment de phrase qui le résume si bien, extrait de ce qu'il disait en parlant de l'amitié de Rémi Blanchard, je cite « Puisque j'aimais tant l'art et que je vous proposais de partager ma foi et ses raisons, l'art étant ce pas au-delà de l'obéissance, des conventions et des justifications, l'art étant essentiellement ce que l'on fait de sa propre singularité en l'aménageant sous la forme d'une perspective spirituelle, offerte à qui veut bien la considérer. L'art étant donc rébellion contre toutes les idéologies et leur sectarisme particulier, l'art par conséquent étant l'exercice souverain mais exigeant de la liberté. » La première des deux émissions que lui consacrait Gérard Julien Salvi en 1976 nous permet de faire connaissance avec Bernard Lamarche-Vadel.
Drinking again. Démarche, Gérard Julien Salvi, Bernard Lamarche-Vadel. Parfois critique d'art, mais aussi l'auteur de Du chien les bonbonnes, qui vient de paraître chez Christian Bourgois.
En fait, je crois pas tellement à la poésie. Je crois beaucoup plus à la littérature. Ou disons au travail, comme on a l'habitude maintenant de le dire, au travail textuel. Mais effectivement, il y a une forme, enfin dans ce livre, il y a effectivement une forme, il y a une figuration du texte qui le rapporte à la poésie. Mais en même temps, je pense que c'est aussi un livre que j'aimerais singulariser comme un traité d'érotisme aussi. C'est aussi un livre qui a trait, pour une bonne part, à mes lectures dans le champ de la psychanalyse. C'est un livre qui est aussi un livre autobiographique, dans une très large mesure. C'est-à-dire que ça, il y a, je crois, par rapport à effectivement une forme, qui est la forme du poème, des excès qui se jouent un peu dans tous les sens. Parce que, par exemple, Du chien les bonbonnes se rapporte, alors le titre, se rapporte à des expériences très précises de mon enfance. Puisque, ça va paraître caricatural, mais mon père est vétérinaire. Mon autobiographie, c'est C'est le glandulaire. Tout ce qui fonctionne comme sens autour du phénomène des glandes. C'est-à-dire que j'ai assisté à des milliers d'opérations, césarienne, ovariotomie, chien écrasé. Moi-même, j'ai été d'ailleurs aide-soignant à une époque de ma vie. Et mon autobiographie circule dans des figurations de glandes dont j'ai été le spectateur à certains moments de ma vie, dont je peux être encore le spectateur d'ailleurs à l'heure actuelle. Enfin, voilà. Et en fait, mon autobiographie, c'est une autobiographie, enfin telle qu'elle peut se présenter dans ce livre, c'est une autobiographie à la fois nerveuse, à travers un voyage dans les glandes, dans ce qui me passionne, ce qui mystérise, ce qui me rend pervers, ce qui me permet certaines séquences paranoïaques, qui est justement la formation des glandes.
Êtes-vous voyeur ?
Je pense qu'on l'est tous un peu, mais que je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne me vois jamais voir. Je vois, bien sûr, mais je ne me suis jamais vu en train de voir.
Vous perdez l'essentiel du plaisir.
Ah mais je le trouve sans doute ailleurs.
Êtes-vous un voyageur ?
Du tout.
Pourquoi ?
Parce que, en fait, j'ai une relation très, très intense et très éprouvée à tout ce qui est cerné, à tout ce qui est encadré, à tout ce qui est fait partie de la scène, quelque scène qui soit, c'est-à-dire qu'à partir de la scène dite théâtrale, j'en envisage toutes les séries métonymiques, c'est-à-dire le tableau, c'est-à-dire la peinture, c'est-à-dire tout ce qui est dans une circulation encadrée.
Êtes-vous un écrivain français ?
Oh oui, totalement. 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 Oui, absolument. Il n'y a qu'une un lapsus, disons, qui intervient dans ce que j'écris, qui est justement l'œuvre d'un voyageur, c'est Gombrowicz, qui est un écrivain que je compte comme un des plus importants, pour moi en tout cas. À part ça, toutes les littératures qui m'intéressent sont des littératures, au contraire, de gens qui voyagent très très peu. Klossowski, par exemple, est un écrivain qui m'impressionne beaucoup. Pierre-Jean Jouve est un écrivain qui est pour moi d'une très très grande importance. C'était pas du tout des voyageurs. Enfin, ils avaient leur voyage.
Êtes-vous un critique à la mode ?
Oui, paraît-il.
Comment le savez-vous ?
Parce qu'on me le dit.
Qui vous le dit ?
Des peintres pour avoir une nouvelle préface ou pour avoir un article.
Des peintres à la mode ?
Des peintres à la mode.
Qui lisez-vous lorsque vous écrivez ?
Klossowski. Gombrowicz, comme je le disais. Un livre tout à fait merveilleux qui s'appelle Le désir et la perversion, qui est un livre qui a été publié par plusieurs psychanalystes qui s'étaient réunis en séminaire et qui ont posé tous les problèmes théoriques relatifs à la structure du pervers. Qu'est-ce que je lis encore ? Je lis le numéro spécial de la psychanalyse sur la perversion, qui m'intéresse beaucoup. Très, très belle chose de Pierre Aulagnier. Que je lis encore. Je reprends souvent Nos de Pierre-Jean Jouve. Et puis je lis pratiquement toutes les revues qui concernent la peinture dite d'avant-garde. J'évite de lire d'abord toutes les factures que je reçois constamment pour le téléphone, pour le gaz, pour l'électricité et que je n'arrive pas à payer. Alors ça, c'est déjà là quelque chose qui intervient très très fort dans mon écriture, parce que ça m'empêche réellement d'écrire. Et puis, alors l'écrivain que je trouve vraiment absolument inintéressant, disons, le pourrait-il être. Bon, je sais pas, il suffit qu'on descende à la gare, et on va dans le premier...
Toujours premier... votre haine des voyages ?
Oui, peut-être, oui, finalement. Il intervient là comme lapsus, pratiquement, mais...
Aimeriez-vous être pervers ?
Non, je... En fait... J'aime beaucoup comprendre la structure du pervers, parce que c'est une structure qui m'indique finalement comme par défaut ce que j'aime savoir du savoir du paranoïaque, ce que il m'indique par défaut comment le schizo voyage à travers son corps. Il m'indique ironiquement la difficulté du névrosé obsessionnel, enfin son inadéquation à toute activité, son inadéquation finalement à lui-même, à sa propre image. Alors là, j'aime beaucoup le pervers parce que c'est un indicateur pour moi. C'est l'indicateur d'un savoir qu'il porte sur des structures psychiques qui ne sont pas la sienne. Parce que je pense que dans une certaine mesure, il les condense toutes. Effectivement, il y a certainement des éléments pervers chez moi. C'est certain, je pense. Mais en même temps, qui sont pas du tout articulés à une pratique. J'ai un double savoir, j'ai un savoir universitaire, acquis durement, pendant des années de labeur, et j'ai un savoir de la rue, j'ai un savoir du café, c'est un lieu où je passe beaucoup de temps, j'ai un savoir aussi des boîtes de nuit, des dancing de boîtes de nuit, c'est ce double savoir, en fait, et toute ma vie s'articule en fait à partir d'un savoir très universitaire au départ, bon, qui s'est désuniversitarisé par la vie elle-même que je mène. Et peut-être que les boîtes de nuit ont eu pour fonction principale de désuniversitariser mon savoir.
Qu'est-ce que c'est qu'une boîte de nuit ?
C'est un lieu merveilleux. C'est un lieu où l'on danse, j'adore danser. C'est un très grand rockeur. C'est un lieu, je sais pas, c'est un lieu que je trouve très... alors là... lâchons un mot comme ça horrible, mais bien aussi très doux. C'est un lieu très romantique. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de fausses rencontres, c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est qu'il n'y a jamais, d'accord entre qui que ce soit dans une boîte de nuit. C'est un accord parfaitement fragile, parfaitement éphémère, parfaitement frelaté, parfaitement gratuit. Et on sait très bien que le lendemain, on ne rencontrera plus la personne qu'on a... avec laquelle on a pu passer une soirée ou même passer une nuit, et le lendemain c'est terminé. Ça, j'aime beaucoup ça. café, c'est un lieu de travail. D'abord. Et puis, c'est un lieu de rêverie, c'est un lieu de consommation d'alcool. C'est un lieu de travail avant tout, parce que, effectivement, tous les gens qui sont là, en fait, pour travailler, ou sont là pour oublier leur travail, mais sont donc toujours dans le travail. C'est un lieu dont je trouve... Ce qui m'intéresse c'est dans le café, dans l'ambiance des cafés, c'est que s'exacerbe finalement des tas de fantasmes. C'est-à-dire que des gens qui n'oseraient jamais dire, quoi que ce soit dans la rue ou dans une relation duelle traditionnelle, normale, le disent au café. Et c'est une sorte de vaste machinerie à fantasmes. Et donc il y a du matériel.
Drinking again. Démarche, Gérard Julien Salvi, Bernard Lamarche Vadel. Having a view.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 17 avril 1976. Vous pouvez la télécharger pendant un an ou la réécouter pendant 1000 jours sur le site des Nuits par franceculture.fr. Go out and knock the horn. It's Independence Day. But instead I just pour myself a drink. It's got to be love. I've never felt this way. This one's from my heart.
The shadows on the wall look like a railroad track. I wonder if he's ever coming back. The moon's a yellow stain across the sky. Baby, this one's from the
down to the corner and get a racing phone. I should probably wait here by the phone. The brakes need adjustment on the convertible. This one's from my heart.
The wind is climbing the avocado tree. Sympathy.